Mafia, anatomie d'une pieuvre.
Alors que la DZ Mafia accroît son emprise dans le sud de la France, retour sur l'histoire de la mafia. Quoi de commun avec sa naissance en Sicile au 19e siècle, son pouvoir aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres ou en Chine et au Japon?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'économiste Clotilde Champerrache.
Épisode 4, 1972, le démantèlement de la French Connection.
L'échec et la fin tragique de Cesari marquent peut-être, avec la capture du bateau Caprice des Temps, l'élimination d'une filière française. D'autres existent, certes, mais ceux qui les animent savent maintenant que leur organisation n'est plus invulnérable. Maurice Denusière, dans Le Monde, le 1er avril 1972. Clotilde Champerrache, vous êtes économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. On va poursuivre ensemble notre conversation sur la mafia. Là, on est en 1972, à Marseille. La fin, espère-t-on, de la French Connection. Racontez-nous l'époque qui semble, avec beaucoup de guillemets, s'achever à lire l'article du Monde du 1er avril 1972.
En réalité, c'est le démantèlement d'une filière qui unit principalement le sud de la France aux États-Unis pour le trafic d'héroïne. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette filière entre l'Europe et les États-Unis, on a plusieurs partenaires. Donc, les corsos marseillais sont ceux qui dominent un peu le trafic, mais ils travaillent aussi avec d'autres personnes, notamment représentants du crime organisé italien, des Siciliens, des Napolitains. Donc, c'est un peu multinational, mais ce sont vraiment les Français, les corsos marseillais, qui ont la place dominante dans le trafic, parce qu'ils sont un peu sur la route de l'opium, de la morphine, vers les États-Unis, parce qu'ils ont des compétences en termes de chimie pour raffiner le produit et l'exporter vers les États-Unis.
Oui, c'est un système à la fois simple et complexe. C'est dans des petits villages, dans des hameaux, dans des maisons qu'on va transformer la matière première en drogue qui ensuite sera exportée vers les États-Unis. On a du mal à imaginer aujourd'hui que Marseille est un point entre, en fait, le point de production et le point de consommation.
Ben c'est toutes les caractéristiques des routes des stupéfiants. Ouais. C'est beaucoup d'opportunités à un moment donné, les bonnes personnes sur la bonne route. Il y a aussi la dimension portuaire, évidemment. Le port de Marseille, c'est quand même un port hyper actif à ce moment-là, avec ses routes déjà établies vers les États-Unis. La Corse, il y a cette dimension insulaire aussi qui permet de gérer des trafics. Donc, il y a des configurations géographiques qui existent et puis des organisations criminelles. Ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des criminels qui se sont positionnés face à l'occupant. Certains ont rejoint les rangs de l'occupation en fournissant les militaires allemands en prostituées, par exemple, qui ont géré ce genre de trafic, qui ont alimenté le marché noir. Et d'autres sont entrés en résistance. Et ces criminels entrés en résistance ont ensuite bénéficié d'un petit statut privilégié au sortir de la guerre. En plus, il faut bien voir que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est perçu comme la menace principale, c'est le communisme, bien plus que le crime organisé. Donc on va avoir des yeux qui se ferment un peu sur certains trafics au nom de la défense contre cette redoutée invasion communiste.
Ça avait commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que avant déjà, il y avait des familles qui regardaient ce qui se passait pas très loin, en Sicile, quand on est en Corse, on se dit, tiens, pourquoi pas nous? Est-ce qu'il y a aussi là une espèce de perméabilité de la criminalité?
Oui, il y a des exemples, il y a des voyages aussi. Les gens se déplacent pendant aussi la guerre. Vous avez des migrations qui ont été portées par cette situation-là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y avait déjà des routes de l'opium avant la Seconde Guerre mondiale. Dès les années 20, on a une circulation qui va de l'opium de Turquie jusqu'aux États-Unis, en passant parfois par la Sicile. Donc effectivement, il y a des apprentissages, il y a l'observation aussi des gains qu'on peut tirer de ces trafics-là. Et ça peut faire envie de voir les sommes qui sont captées par certaines organisations criminelles.
Mais on ne consomme pas C'est-à-dire que c'est un peu ce que vous nous aviez dit sur l'Italie, avec le retour dans les années 20, dans les villages siciliens, la drogue, on la consomme pas, ça sera uniquement pour le marché américain. Est-ce que là, c'est de la même nature, c'est la même chose? Il y a une espèce de préservation d'un univers local, familial presque, qu'on veut préserver de la drogue. En revanche, la drogue, on l'enverra vers les États-Unis.
Au départ, il y a souvent cette logique-là. Hein. On raffine la drogue pour l'exporter véritablement, mais rapidement, les barrières finissent par tomber et on a le démarrage de la consommation, y compris sur les lieux où on raffine.
Il y a des grandes familles à l'époque. C'est un fonctionnement qui ressemble à la mafia italienne.
Pas vraiment, parce que souvent, c'est quand même un business qui va capter l'essentiel des ressources et qui génère le maximum de revenus. C'est-à-dire qu'on est plus sur de l'illégalité pure, même si on peut réinvestir cet argent dans la sphère légale. Hein. Il y a un contrôle aussi sur les maisons de jeu, tout le secteur du divertissement. Mais c'est en lien avec cette activité illégale. Et vous avez des noms qui dominent. Alors ça, c'est aussi très lié à la criminalité française. Souvent, on a des organisations criminelles qui n'ont pas la pérennité des mafias. Hein, on a vu pour la Sicile, c'est le 19e siècle. Pour les triades, c'est encore plus ancien. Donc on a des organisations criminelles mafieuses qui sont transgénérationnelles. Mmh. Et aussi parce qu'elles ne s'incarnent pas, encore une fois, en une personne. En France, on est plutôt sur les beaux voyous. Donc il y a des gens qui incarnent les choses, qui vont réussir à fédérer autour d'eux une galaxie criminelle. Mais en même temps, le risque, c'est que quand cette personne-là tombe, la filière s'effondre avec lui. Donc on n'a pas cette pérennité criminelle. On a des gens qui réalisent de jolis coups et qui se font arrêter ou sont tués dans un règlement de compte, et il va falloir reconstituer une autre filière. Et parfois perdre aussi le marché, ce qui va arriver pour les Français.
Et ce qui va faire beaucoup de mal à Marseille et à cette filière French Connection, c'est le lien entre les polices françaises et américaines.
Oui, la coopération internationale, là, fonctionne extrêmement bien. Mais c'est aussi ce qu'avait observé le juge Falcon dans les années 80, quand il a travaillé avec les États-Unis, qu'il s'est rendu plusieurs fois aux États-Unis pour travailler ensemble sur cette question des stupéfiants, pour apprendre aussi des méthodes américaines, hein, puisqu'il y avait cet exemple d'Al Capone et de la fraude fiscale. Donc l'enquête financière, c'est quelque chose que les Américains pratiquaient déjà depuis un certain temps et qui va être repris par les juges en France, en Italie, pour essayer encore une fois de traquer l'argent et de faire tomber les personnes à partir de ces filières-là.
En regardant un peu dans les archives, j'étais quand même très frappé de voir comment cette French Connection, ces petits réseaux mafieux du sud de la France, opèrent, et on le dit beaucoup aujourd'hui, aussi dans des villages. Vraiment, c'est pas Marseille stricto sensu, c'est des petits villages dans la montagne, en Provence, dans l'arrière-pays, où on va avoir des petits labos dans des maisons, c'est presque indétectable. Il y a quand même une espèce de maîtrise quand même déjà d'un territoire.
Oui, alors les laboratoires, on peut difficilement les placer en centre-ville. Hein. Souvent, il y a des odeurs un peu suspectes, donc qu'on les mette dans les campagnes, c'est un peu normal. C'est une façon d'échapper au contrôle, d'être moins facilement identifiable. C'est quelque chose qu'on a à l'heure actuelle avec les nouveaux produits de synthèse. On a des laboratoires et en plus, il y a une dimension artisanale, c'est-à-dire qu'on peut mettre ça dans un garage et faire sa petite industrie chimique. C'est comme dans Breaking Bad. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour raffiner la drogue ou créer des produits de synthèse. Donc l'empreinte territoriale, elle est assez normale hein, dans ces logiques-là. On va effectivement s'implanter en milieu rural pour masquer ces opérations.
Ce qui est frappant aussi dans la citation que je donnais au début de l'épisode, c'est: d'autres existent, certes, mais ceux qui les animent savent maintenant que leur organisation n'est plus invulnérable. Ça, c'est un grand classique aussi de cette histoire.
Oui, et ça s'appuie sur une erreur de diagnostic qui continue à l'heure actuelle. Là, on n'est pas avec la French Connection sur une mafia. On est sur du milieu corso-marseillais qui, à un moment, a été dominant sur un marché. Mais
alors, c'est quoi la différence? Racontez-nous.
Justement, ces mafias, elles ne s'identifient pas à un marché en particulier, à un marché illégal en particulier. C'est-à-dire qu'elles vont être présentes dans les stupéfiants. À un moment, elles vont perdre aussi, en tout cas pour la mafia sicilienne, elles vont perdre leur position dominante, sans pour autant que ça remette en question leur existence en tant qu'organisation criminelle. Ça leur met un coup d'un point de vue financier, éventuellement. Mais elles ont toute une autre gamme d'activités qui leur permettent une forme de résilience que n'ont pas les réseaux criminels qui sont mono-activité, où effectivement, si on fait tomber la filière stupéfiant, on va faire tomber le réseau qui est dédié à ce narcotrafic.
Et pour le coup, la French va disparaître à ce moment-là.
Alors effectivement, la French est démantelée en tant que réseau d'approvisionnement qui allait de la France aux États-Unis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y en a qui sont prêts à prendre le relais, qui ont travaillé avec les Corseaux marseillais, ce sont les Siciliens, et c'est la montée en puissance de la Pizza Connection. Donc une
organisation. Pizza Connection.
Oui. C'est la mafia sicilienne qui entre de plein pied. Elle était présente dans le trafic de stupéfiants, mais elle n'avait pas encore une surface financière importante. Et là, elle va monter en puissance. Les laboratoires de raffinage de la drogue vont s'implanter en Sicile, notamment autour de Palerme. Et ce sont eux qui prennent le relais véritablement dans le trafic d'héroïne. Et en plus, il va y avoir la montée en puissance de la cocaïne. On va échanger de l'héroïne contre de la cocaïne et alimenter les marchés. 1974, c'est le premier mort par overdose en Italie.
La nature a horreur du vide et les Italiens l'ont bien compris.
Ben les trafics, il y a de l'argent à se faire, il y a effectivement une demande aussi. Hein. Les États-Unis, les consommateurs ont besoin de cette drogue, donc il va falloir que d'autres organisations montent en puissance. Et les Siciliens savent faire parce qu'ils ont travaillé avec la French Connection. Donc l'invulnérabilité, elle est malheureusement réelle pour les mafias. Hein, à l'heure actuelle, les mafias italiennes sont prospères, malgré les coups portés par l'État italien, hein, qui se bat en permanence contre ces phénomènes-là. Les triades existent toujours, les yakuza japonais sont aussi toujours performants. Par contre, on a plein de réseaux criminels qui sont démantelés durablement. Mais il y a des appels d'air, donc il y a des remplaçants qui peuvent prendre la place.
Donc tout l'enjeu pour les États et pour les forces de l'ordre, c'est d'empêcher que ces réseaux criminels se diversifient jusqu'au point qu'elles deviennent des mafias et que le simple fait de, par exemple, mettre un terme à un trafic de drogue ne suffise désormais plus à mettre un terme à l'organisation en tant que telle.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde criminel est extrêmement varié et foisonnant. C'est-à-dire qu'on a plein d'organisations criminelles extrêmement diverses. Alors au sommet de la pyramide, vous avez les mafias qui sont à l'heure actuelle indestructibles. Et puis après, vous avez toute une déclinaison. Et ce qu'il faut bien voir, notamment pour la question du trafic de stupéfiants à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas une organisation, la pieuvre, qui gérerait tout de A à Z. On a plein d'organisations criminelles qui travaillent ensemble avec certains qui ont des positions dominantes, notamment les intermédiaires de gros, mais vous avez les producteurs de la matière base pour la coca, par exemple, en Amérique latine, et puis vous avez les importateurs de gros, et vous avez les distributeurs aux consommateurs finaux. Et tout ça, c'est plein d'organisations criminelles imbriquées les unes aux autres, et ce qu'on arrive à faire, c'est frapper celle de bout de chaîne, parce que c'est la plus visible, la plus vulnérable. Remonter, c'est beaucoup plus complexe. Donc parfois, on crie victoire un peu trop tôt.
On ira dans le dernier épisode sur la mafia actuelle. Est-ce qu'on peut l'appeler mafia ? On ira à nouveau à Marseille. Mais là, on était déjà à Marseille il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Alors, le crime organisé à l'heure actuelle en Europe, d'après Europol, c'est plus de 800 organisations criminelles dangereuses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du petit réseau, hein, c'est celle qui pose problème. Donc on voit bien qu'il y a plein d'organisations criminelles avec une surface financière, territoriale différente. Et en France, on a beaucoup cette focalisation sur Marseille.
Oui.
Parce que ça nous renvoie à ces schémas classiques de la French, du cinéma, des règlements de compte aussi.
Oui.
Mais tout notre territoire est quadrillé par des organisations criminelles différentes. Et au moment où le milieu corso-marseillais est très puissant dans les stupéfiants, Paris et la région parisienne sont aussi sous la coupe d'organisations criminelles importantes, mais qui ne sont pas associées à cette French Connection. Mmh. Donc on en parle moins, mais ils existent aussi.
Voilà qui est rassurant. On va quand même montrer dans l'épisode prochain comment la loi peut permettre aussi de lutter quand même contre le crime organisé et la mafia. Retour en Italie pour le prochain épisode. Mafia, anatomie d'une pieuvre est un podcast original de France Inter.